fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist 20 Uhr auf Kanal K. Sie sind live in der Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine Sendung über afrikanische Politik und Kultur. Wir werden in dieser Sendung über die Präsidentschaftswahl in Kamerun, die morgen stattfinden, sprechen. Im zweiten Teil werden wir mit unserem Gast im Studio über die Nationalratswahl in der Schweiz sprechen. Frau Sylvia Gull-Lawson, Kandidatin der EVP, ist im Studio zu Gast. Amis fidèles auditeurs d'ici et d'ailleurs en Afrique, bonsoir. Bonsoir à Yaoundé, bonsoir Dakar, bonsoir Lomé. Bienvenue à tous à l'émission Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain de Radio Canal K. Les Camerounais vont élire demain leurs nouveaux dirigeants. À la veille de ce scrutin très critique au Cameroun, notre confrère du quotidien Mutation sera dans une dizaine de minutes en ligne en direct depuis le Cameroun. Le confrère Georges-Alain Boyomo nous dira dans quel climat politique, le peuple camerounais ira voter demain. Le Togo est passé jeudi dernier en examen périodique universel sur les droits de l'homme à Genève. Fabi Kouassi, notre correspondante au Togo, faisait également partie de la délégation pour la partie civile. De retour à Lomé, elle nous fera en direct par téléphone d'ici une vingtaine de minutes. Elle nous fera le point sur les différentes recommandations pour le Togo en matière des droits de l'homme. Et pour vous conduire jusqu'à 21h dans Fenêtre sur l'Afrique, l'équipe est au complet. Gisela Rosato est à la supervision générale. Josué Maoli et Esteban Gagnon assurent la programmation musicale. Parfaite collaboration de Romain Koudjodi. Romain, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère Amour.
Fabi Kouassi et Rodrigue Lawson nous soutiennent également à Lomé. Fenêtre sur l'Afrique est réalisée et présentée par Sylvain Amos. Et comme à l'accoutumée, je vous propose de suivre l'éditorial de ce soir sous la plume d'un confrère camerounais, Alain Batongué, du quotidien Mutation à Douala. Le confrère lance un appel à tous les Camerounais à aller voter demain en âme et conscience. Quelques heures du scrutin présidentiel, sans sous-estimer aucun candidat, ni faire injure à la souveraineté de l'électeur dans l'isoloir, l'on voit mal comment le rouleau compresseur en marche acceptera un résultat autre que la victoire de Paul Biya au lendemain du dimanche 9 octobre 2011. Au regard du déploiement ubiesque du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, digne des campagnes du temps du parti unique, une simple hypothèse de cette nature constitue un casus belli. En fait, l'asymétrie entre le candidat Paul Biya et les autres, les premiers, qu'on le veuille ou non, usant et surtout abusant de la confusion entre le statut de chef de l'État et celui du candidat du RDPC, les autres se débrouillant, à qui mieux, est écrasante. Depuis la retouche de l'article 6.2 de la Constitution 2008, l'issue du scrutin de 2011 était grandement jouée. Le débat de mi-2011 sur l'éligibilité problématique de Paul Biya n'ayant pas été capitalisé au plan politique par une opposition incorrectement atone, il n'y avait plus de miracle possible à attendre, aucune vérité, ni qualitative, ni courageuse, interne ou RDPC, ne s'étant signalé tout espoir d'une vibration était totalement perdu. Paul Biya s'en va donc royalement vers un troisième septennat, un mandat de trop dont il faut espérer pour lui qui ne sera pas considéré dans l'histoire comme celui qui aurait dû s'abstenir de solliciter. au-delà des montages préfabriqués concernant l'enthousiasme populaire ou l'appel du peuple, le Cameroun s'apprête à continuer avec Paul Biya sans aucun entrain. On ne le hait pas, c'est sûr. Certains l'aiment, même sincèrement, et on les respecte dans leurs sentiments humains et leurs convictions politiques. Mais franchement, dans l'ensemble, on n'y croit plus. Un homme dont, par l'âge, l'avenir est somme toute plutôt derrière lui, par la force des choses, il ne peut plus incarner l'avenir du Cameroun et celui des Camerounais. Il en est de lui comme de beaucoup d'autres dont les silhouettes plus ou moins sympathiques ont déjà également usé et fatigué l'attention du public. Le journal Mutation, qui s'est toujours voulu depuis sa création, un appel permanent à coller et à réfléchir aux mutations d'ici et d'ailleurs pour construire l'avenir, s'est également positionné de manière permanente comme un journal citoyen répondant à une logique institutionnelle et démocratique, qui a appelé à s'inscrire massivement sur les listes électorales en dépit des balbutiements perceptibles de l'ECAM et de son manque de confiance au sein de la population nationale. À moins de 24 heures du scrutin, on aura du mal à reprocher à quelques Camerounais d'être résignés par le spectacle d'un scénario connu à l'avance avec les mêmes acteurs. Ce n'est pas le moment de perdre espoir en l'avenir. Allons donc voter demain dimanche, librement, en notre âme et conscience. Par ce seul acte, au-delà du candidat préféré, nous dirons notre espoir qu'un jour, qu'on le veuille ou non, les choses changeront dans notre pays. Que ce pays deviendra comme d'autres que nous admirons dans nos frustrations, parce que le nôtre n'avance pas au rythme qui devait être le sien. Bon vote. Éditorial signé par Alain Batongué, journaliste au quotidien Mutation, Douala, au Cameroun.
Mi tono ben agame a basu, mi baja.
y est, le peuple camerounais votera demain dimanche. Paul Biya, 78 ans, brigue un sixième mandat et fera face à 22 candidats, dont le principal candidat de l'opposition, John Frundi. John Frundi, qui avait menacé d'empêcher l'élection présidentielle au Cameroun, avait finalement appelé ses militants à aller s'inscrire seulement à 3 semaines de la fin des inscriptions. Depuis que cet opposant historique a rencontré le président Paul Biya en 1992, son parti, le Front Social-Démocratique, est divisé et d'autres l'accusent même de rapprochement avec le pouvoir. Et comme annoncé en début d'émission, nous allons prendre maintenant au téléphone en direct depuis le Cameroun, Georges Alain Boyomon, journaliste au quotidien Mutation à Douala. Il nous dira l'atmosphère qui règne au Cameroun juste à la veille du scrutin présidentiel. Georges Alain Boyomon, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Amous.
Merci d'être en direct avec nous depuis le Cameroun. Vous êtes journaliste au quotidien Mutation au Cameroun. Alors, Georges Alain Boyomon, dites-nous brièvement l'atmosphère qui règne au Cameroun et en particulier à Douala, la capitale, à la veille de l'élection présidentielle au Cameroun. La campagne électorale s'est-elle déroulée dans de bonnes conditions pour tous les candidats à la présidentielle, Georges Alain Boyomon?
Il faut dire que, à l'état actuel des choses, la paix règne dans l'essentiel du territoire national. On ne signale pas de grandes secousses sur le plan sécuritaire. La campagne en elle-même s'est bien déroulée, s'achève à minuit aujourd'hui selon la loi électorale en vigueur au Cameroun. Les différents candidats, au total de 23, ont présenté chacun leur programme pour ceux qui en ont, parce que par ailleurs on a constaté que beaucoup de candidats, au lieu de dérouler leur programme, leur vision pour les 7 prochaines années au cas où ils sont élus, eh bien, certains candidats ont choisi de s'attaquer de manière individuelle aux candidats sortants. Et on a également remarqué au cours de cette campagne une hyper-domination du candidat sortant, le président Paul Biya, notamment du point de vue de l'affichage. On a senti la disproportion en termes de moyens, avec des grandes affiches sur des panneaux géants du candidat Paul Biya et de l'autre côté des affiches, j'allais dire, illicitiennes des candidats de l'opposition. Il faut le dire, on a quand même fait face à un problème de financement. Le financement public, notamment la première tranche de 15 millions sur les 30, n'est pas arrivé à temps. Et donc, les candidats de l'opposition, disons la majorité, a vraiment tiré le diable par la queue durant cette campagne électorale.
Alors, Georges Alain Boyomon, Madame Kawala, candidate du Cameroun People Party, émet des doutes sur la neutralité de la crédibilité de ELECAM, l'organe chargé de l'organisation de l'élection présidentielle au Cameroun. Alors, rappelons que cette candidate n'est pas la seule dans l'opposition à critiquer le travail de ELECAM. Pourquoi, selon vous, tant de doutes et de polémiques autour de ELECAM?
Il faut dire que dès la parution de l'élection de Cameroun, c'est-à-dire ELECAM, il y avait déjà eu une polémique sur la nature des membres du conseil électoral. Beaucoup de leaders de l'opposition, dont Kawala, ont trouvé que, on avait désigné en majorité des membres du parti au pouvoir. Il y en a qui étaient même membres du bureau politique de cette instance-là et qui ont été désignés avant de démissionner après la levée de boucliers au sein de la société civile et de l'opposition. Alors, ELECAM a continué avec cet art congénital. Le pouvoir a essayé de corriger, à un moment donné, en désignant 6 autres membres, c'est-à-dire c'était 12 au départ, après, que le chiffre a culminé à 18. On a fait entrer quelques membres de la société civile, mais fondamentalement, ça n'a pas remis en cause le caractère partisan de certains membres de cette instance. La preuve, c'est que en pleine campagne électorale, un membre de l'ECAM, Mme Pauline Dion, a gagné le marché de l'affichage du candidat Paul Biya, après une dénonciation du quotidien Mutation. Et bien hier, la sanction est tombée. Le conseil électoral de l'ECAM a exclu Mme Dion. Cela montre tout à fait que l'ECAM ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique camerounaise et de la société civile.
Oui, et la publicité des partis politiques est souvent plus haute en couleur que leurs candidats. Vous qui avez suivi de près ces campagnes, est-ce que le peuple camerounais est-il encore prêt à réélire demain Paul Biya?
Il faut dire que ça va être une affaire de chaque électeur. L'élection présidentielle est un rendez-vous entre un candidat et son peuple. Pour cela, on ne peut pas prédire si l'un ou l'autre sera réélu. Même s'il va de soi, c'est-à-dire que lorsqu'on analyse les forces en présence et la machine qui est derrière le candidat du RDP, c'est la machine tant du point de vue de l'organisation de l'élection que du point de vue politique, eh bien, on se dit que le candidat du RDP est quand même favori. Mais fondamentalement, beaucoup de Camerounais pensent que c'est un mandat de trop pour le président Paul Biya, qui a fait modifier la constitution en 2008, alors que son mandat de 7 ans renouvelable, une fois arrivé à expiration, eh bien, il a modifié la constitution pour se représenter à l'élection présidentielle, au grand dam de ceux qui pensaient que le Cameroun était aux portes d'une alternance qui devait lui ouvrir les voies de la modernité. Malheureusement, le président Paul Biya a décidé de se représenter et il a pratiquement la machine Elecam à sa dévotion. Il y a également l'administration qui a contrôlé cette élection. Et beaucoup de candidats, malheureusement, en face de lui, ne pèsent pas d'un poids certain. Ça fait que c'est pratiquement le boulevard vers la victoire qui est ouvert au président Paul Biya. Même s'il faut dire que le peuple camerounais véritablement plus le choix du peuple, comme son slogan l'indique.
Et Georges-Alain Boyomo, que peut-on retenir en bref des programmes de quelques candidats au Cameroun?
Bon, le président Paul Biya, pour commencer par lui, a annoncé de grandes réalisations après avoir annoncé de grandes ambitions. En 2004, annonce de grandes réalisations cette fois-ci. Il annonce la mise en chantier effective des projets structurants tels que la construction du port en eau profonde de Kribi, qui devrait être le port leader au sein du Golfe de Guinée. La pose de la première pierre derrière a eu lieu tout à l'heure. Le président annonce une décentralisation effective, une décentralisation plus accrue, et l'accès aux services de base tels que l'eau, un accès accru aux services de base tels que l'eau, l'électricité, un certain nombre d'infrastructures. Les candidats de l'opposition, par exemple, le leader de l'opposition, Ni John Fundi, propose une transition de 3 ans où il va remettre à plat les institutions, où il va lutter contre la corruption et conduit les Camerounais, le Cameroun effectivement vers la prospérité. Il y a d'autres candidats qui parlent du retour au fédéralisme pour permettre à chaque partie du pays, à chaque région de bénéficier des flux de la croissance. Voilà, et d'autres programmes, il y a d'autres candidats qui font également des annonces que je pourrais qualifier de populistes en annonçant par exemple la gratuité des soins de santé, la gratuité de l'école, la gratuité d'un certain nombre de services, sans toujours en expliquer la faisabilité de ces actions qui sont annoncées.
Oui, et Georges-Alain Boyomo, une dernière question. L'opposition camerounaise va encore en rang dispersé à l'élection présidentielle au Cameroun en demain. Hein. Alors, certains Camerounais pensent aussi que l'opposition accompagne plutôt le président sortant, Paul Biya, à une victoire certaine. Est-ce qu'il existe vraiment une opposition au Cameroun, Georges-Alain Boyomo?
Il y a une opposition qui est en place, mais qui est miettée, c'est-à-dire aujourd'hui. On a l'impression qu'en dehors des leaders comme Adamu Ndamjoya, Kawala et quelques autres, Jean-Jacques Kindi, eh bien, il y a une forte proportion parmi les candidats, parmi les candidatures qui ont choisi, en fait, pour parler comme un athlétisme, de jouer un peu le lièvre pour le candidat du RDPC. Malheureusement, ça ne donne pas, j'allais dire, un sérieux à ces différents candidats, notamment le leader de l'opposition, John Fungi, qui, pendant des mois, a choisi d'appeler les électeurs à ne pas s'inscrire sur la liste électorale. Ce n'est qu'à 3 semaines qu'il les a appelés à le faire. Et entre-temps, on a noté des rencontres formelles et d'autres informelles entre ce candidat-là et le président Paul Biya. Et beaucoup ont conclu qu'il y a eu un gentleman agreement entre les deux. Ce qui fait que, véritablement, il ne faut pas attendre grand-chose de ces leaders de l'opposition-là, tout comme d'autres micro-candidats qui sont en lice, pour certains, prêchent en réalité pour la chapelle du RDPC, le parti au pouvoir.
Georges-Alain Boyomo, merci. Je rappelle que vous êtes en direct depuis le Cameroun. Vous êtes journaliste au quotidien Mutation au Cameroun. Encore une fois, merci d'avoir été en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique depuis Cameroun.
Légende FM. partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Le Togo est passé à l'examen périodique universel sur les droits de l'homme en jeudi dernier, ici même en Suisse, à Genève. Les membres du gouvernement, composés de ministres et juristes, ont présenté leur rapport sur la situation des droits de l'homme au Togo. La question des tortures est également revenue dans les interventions au cours des séances de travail auxquelles ont participé également plusieurs associations des droits de l'homme au Togo. Fabi Kwasi, porte-parole de la société civile. Et pendant cet examen périodique universel, après avoir fait une autocritique des organisations de la société civile, a relevé les graves violations des droits de l'homme ces derniers temps au Togo. Alors Fabi Kwasi, qui est rentré depuis hier soir à Lomé, est également en ligne, en direct depuis Lomé. Nous la prenons tout de suite. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Merci également d'être aussi en direct, je viens de le dire. Fabi, vous faites partie de la société civile togolaise lors de votre mission de la semaine passée à Genève, où le Togo est passé à l'examen périodique universel sur les droits de l'homme. Quel bilan faites-vous du passage du Togo à cet examen périodique universel, Fabi ?
Le bilan, je pense, il est satisfaisant, il est positif pour la société civile togolaise qui a eu à faire un travail extraordinaire de lobbying à Genève, qui a su rencontrer tous les diplomates qui peuvent influer sur la situation des droits de l'homme au Togo, les grandes puissances, la France, l'Allemagne, les États-Unis, sans oublier la Norvège, la Suisse, l'Irlande et tous ces pays-là. Et ce qui a fait que le passage du Togo avec les recommandations de ces États ont pris en compte une extension les préoccupations de la société civile togolaise. La toute première préoccupation de cette société civile, c'est la question de la torture et l'ouverture d'une enquête digne de ce nom pour mettre les auteurs devant leurs responsabilités et les punir conformément à la loi. La deuxième préoccupation, c'est l'impunité qui a été également prise en compte, où le diplomate français, ou du moins l'ambassadeur français auprès du Conseil national des droits de l'homme à Genève, n'a pas mâché ses mots et a même demandé au gouvernement togolais, à l'État togolais, de ratifier dans les meilleurs délais le statut de Rome sur la Cour pénale internationale. La troisième préoccupation, c'est la question des conditions de détention, les conditions carcérales aujourd'hui, où vous n'êtes pas sans savoir que notre prison ou nos prisons sont surpeuplées et que les gens vivent, contrairement à ce que préconisent tous les tests des droits de l'homme. Et donc, pour la société civile, c'est un bon bilan. Pour le gouvernement qui doit passer en recommandation lundi prochain, 10 octobre à venir, où les recommandations sur la situation du Togo vont être adoptées, vont être acceptées par l'État togolais. On va voir ce que l'État togolais va faire de ces recommandations. Ce qui est sûr, le PU, c'est un cycle de 4 ans, et 4 ans après, il va falloir que le Togo puisse dire que j'y étais à l'EPU en 2011, vous m'avez parlé de torture, aujourd'hui il n'y a plus de torture au Togo. Donc on attend de voir, mais ce qui est sûr, l'État, malgré tout le renfort journalistique, tout le renfort d'une certaine société civile, entre guillemets, proche du pouvoir, de tous ces gens-là qui ont été payés sous le dos du contribuable togolais pour venir embellir la situation togolaise. Heureusement que la société civile, la vraie, a pu faire ce travail de lobbying et démontrer à la face du monde la réalité sur le terrain. La société civile n'était pas allée pour démolir ni pour embellir, mais pour présenter la situation des droits de l'homme telle qu'elle. Et en cela, on peut dire que l'EPU a été, le gouvernement a été placé devant ses responsabilités aujourd'hui à la face du monde. On sait qu'on torture au Togo, on sait que l'impunité est régie en mode de gouvernance, on sait que les conditions carcérales ne sont pas ce que ça devrait être, selon la dignité humaine, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution togolaise.
Oui, Fabi Kwasi, de retour à Lomé depuis hier vendredi, vous suivez comme d'habitude pour nous les manifestations du FRAC, Front républicain pour la tenance et le changement, un front qui conteste toujours l'élection présidentielle du 4 mars 2010 au Togo. Alors Fabi, quel écho peut-on avoir de la manifestation de ce samedi à Lomé?
Voilà. exactement 19 mois hein, que le FRAC bat les pavés, ça fait quand même beaucoup, 1 an, 7 mois, mobilisation extraordinaire ce samedi avec une prolongation du meeting de ce jour en raison de l'actualité, plusieurs heures d'horloge à l'heure où je vous parle, c'est maintenant que la foule commence par partir petitement de la plage du changement, en fonction donc de l'actualité, je disais, le verdict de la cour de la CEDEAO qui est un sérieux camouflé pour l'État togolais qui doit dédommager les députés pro-ANC à hauteur de 3 millions chacun. Le meeting de ce jour a été consacré au prochain retour des députés donc au Parlement et donc tous les intervenants sont revenus largement sur cette décision de la CEDEAO qui est quand même historique pour le peuple togolais qui pense que cette CEDEAO-là, même si là il s'agit de la Cour de justice, que cette CEDEAO-là roule pour le gouvernement togolais ou pour la dictature au Togo. Et donc c'est une première que la Cour de la CEDEAO présidée par une togolaise puisse avoir le courage de rendre une décision aussi courageuse. Et donc les intervenants sont intervenus et ont dit beaucoup merci aux populations, surtout pour leur soutien. Je vais prendre même quelques interventions. Claude Amégambi qui a rappelé à la foule que la résignation est contraire au combat et a exhorté les Togolais à plus de mobilisation pour maintenir la pression sur les oppresseurs du peuple togolais. Car pour lui, c'est un résultat tangible des 19 mois de contestation et de combat du peuple togolais à travers les rues de Lomé. Donc pour eux, la marche est en train de payer. Le Parti des travailleurs rappelle que l'auteur de la forfaiture dans le dossier des députés, c'est d'abord Guilcris Solimpio, avant de rappeler que pour qu'il y ait dialogue entre pouvoir et ANC ou pouvoir et le FRAC, on doit ajouter encore un autre préalable qui est le retour à la constitution de 92. Autrement dit, il n'y aurait pas de dialogue parce qu'il ne suffit pas qu'on réintègre les députés qui est même une résultante du fait que c'est l'ANC qui a porté plainte et ce n'est pas l'État togolais qui s'est rendu compte de sa forfaiture et réintégré les députés. Le PSR qui a envoyé une forte délégation a félicité l'ANC et ses responsables pour leur courage et a demandé que la CEDEAO ne doit pas attendre que les partis politiques déposent plainte et qu'aujourd'hui, ces institutions africaines ont le droit d'ingérence dans un certain nombre de dossiers dans les États où la démocratie ne se porte pas bien, car pour le PSR, la valeur d'une personne n'est pas le matériel, parce que le PSR soutient avoir entendu sur les médias que les députés vivent mal, que d'autres sont truffés, d'autres ont beaucoup de dettes à rembourser et donc feraient mieux d'accepter les propositions en matière de sous que le pouvoir leur faisait, et rappeler que la nuit est toujours longue, mais le jour vient, comme disait le premier président démocratiquement élu du Togo. Donc c'est vous dire que l'ambiance a été plutôt bon enfant, où les 9 députés ont été représentés à la foule, où Amène Diassissé a improvisé une chanson pour le retour des députés, une chanson de circonstance, et les intervenants ont demandé instamment, notamment Alphonse Bogo de la DIC, qui a demandé au peuple togolais de se mobiliser massivement pour raccompagner les députés au Parlement. Patrick Lawson a rappelé aux députés de se mettre au propre, de mettre au propre leurs habits et les écharpes des députés pour faire un retour triomphal à l'Assemblée nationale au moment opportun. Mais je vous assure également que quand vous faites un petit tour sur dans les milieux proches du pouvoir, malgré cette décision assez claire de la CEDEAO, on a comme l'impression que le président de la Cour constitutionnelle, Amadou Hassouma, continue de dire que le Togo est un État souverain et que la décision de la Cour constitutionnelle est inattaquable, ce qui est véritablement une aberration selon certains juristes qu'on a eu à appeler un peu avant cette intervention. Donc les jours à venir, la semaine prochaine va être animée en débat et en intervention sur les médias et dans la presse par rapport à cette actualité.
Oui, justement Fabi, une dernière question justement, selon vous, est-ce que la décision de la Cour de la CEDEAO, cette décision qui donne raison maintenant aux 9 députés de l'ANC qui ont été exclus il y a quelques mois du Parlement togolais, est-ce que cette décision de la CEDEAO peut changer la donne politique au Togo?
De toutes les façons, cette décision décision, malgré tout ce que la Cour constitutionnelle dit ou le président de la Cour constitutionnelle dit, s'impose à l'État togolais. Et aujourd'hui, ça fait quand même honte qu'on n'a pas été capable de lire de façon élémentaire, de façon claire, le béaba du droit et qu'on soit obligé d'être transporté sur Abuja pour qu'on vienne nous donner des leçons de droit. Et donc aujourd'hui, il faut avoir pitié pour nos gouvernants qui viennent de recevoir une sérieuse leçon de lecture du droit. Si la CDAO qui a été fondée par, qui a eu un cofondateur comme Yacine Biyadema, qui a toujours eu à dire, à parrainer la dictature Togo, sa cour arrive aujourd'hui à dire que les 9 députés doivent être intégrés, mais il faut comprendre que le Togo est malade de ses dirigeants, le Togo est malade de ses juristes, et donc il va falloir rappeler à ces gens-là qui ont fait quand même de grandes études pour dire le droit, rien que le droit, il va falloir leur rappeler de dire ce droit-là. S'ils ne veulent pas obtempérer, ben, il va falloir que ces députés issus de l'ANC, que l'ANC et que tous les hommes épris de liberté de droit puissent prendre leurs responsabilités pour que le droit soit tout simplement appliqué. Je rappelle au passage que dans la foulée, la semaine prochaine, l'ANC qui aura un an lundi prochain prévoit une série d'activités, et c'est en des termes assez clairs que le premier vice-président de l'ANC a menacé à demi-mot le pouvoir si jamais il leur arrivait de ne pas réintégrer à l'Assemblée nationale, qui vont user de tous les moyens pacifiques pour les bouter dehors. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, mais il va falloir que pour une fois que le pouvoir n'excelle pas toujours dans l'usage de la force de la loi sur la loi de la force, oui, la force de la loi.
Fabi Kwasi, merci.
Être sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
Nous allons toujours rester au Togo. La Cour de la CDAO vient de donner raison aux 9 députés de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, exclus il y a près d'un an de l'Assemblée nationale togolaise. Le verdict est tombé hier, vendredi. Nous prenons tout de suite en ligne, en direct depuis Lomé également, le premier vice-président de l'ANC. Jean, et j'espère que Patrick Lawson est déjà en ligne. Nous allons le prendre tout de suite. Patrick Lawson, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Vous êtes le premier vice-président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. La Cour de la CDAO vient de donner raison aux 9 députés exclus de l'Assemblée nationale. Alors, quel sentiment vous anime par rapport à la décision de la Cour de la CDAO qui vous donne raison contre l'État togolais?
C'est la confirmation de ce que nous avons cru dès le départ, que c'est une injustice qui frappe les 9 députés de l'ANC. Mais la décision, la toute première que nous avons prise, c'est de créer une jurisprudence, en tout cas, que les Togolais sachent qu'ils ne seront plus livrés à eux-mêmes. Et que désormais, quand le droit ne sera pas dit, lorsque la violation des droits de l'homme est présente, nous aurons recours aux institutions supranationales qui deviennent ainsi les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Notre sentiment est donc celle du recours à une protection extérieure contre les agressions internes que nous subissons, contre la violation répétée des droits de l'homme, contre les brimades, contre l'arbitraire. Dans le cas d'espèce, ce qui est arrivé aux 9 députés de l'ANC, contre toute attente alors, puisque l'article 52 de la Constitution est clair dans notre Constitution, donc au Togo, le mandat impératif est nul. Or, quelle est la définition du mandat impératif? C'est lorsque vous recevez une démission en blanc. La démission en blanc est un est l'expression du mandat impératif. C'est pour cela que nous n'avons jamais été inquiets. Nous avons compris que le droit était de notre côté. Nous nous sommes battus. Mais au prix de quelle souffrance? Mais nous avons souffert moralement, matériellement. Cela va continuer. Mais nous avons une satisfaction, c'est celle d'avoir ouvert une brèche dans la voie qui est fermée et dans laquelle, et par cette voie, on viole les droits de l'homme, on brime, etc. Nous croyons que par notre attitude, par l'acte que nous venons de poser à travers le verdict de la Cour d'Abuja, les Togolais peuvent désormais souffler un peu.
Patrick Lawson, restez toujours en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis Lomé. Notre collaborateur Romain Koudodi est en ligne également depuis Beaune. Romain.
Oh, bonsoir, Monsieur Patrick.
Bonsoir, comment vous allez?
Je vais très très bien. Et chez vous?
Ça va, merci.
Bon, et êtes-vous optimiste à ce que l'État togolais puisse s'y plier à la décision de la Cour quand M. Abdou Azouma, président de cette Cour d'appel sur Republic of Togo, continue de dire que les décisions de la Cour sont inattaquables et s'imposent à tout le monde?
Mais je crois que il n'y a pas de petit juriste. Je crois que M. Abdou Azouma refuse de dire le droit, mais il n'empêche que c'est un juriste qui sait que quand il s'agit d'une institution supranationale, on ne peut plus parler du droit interne. Et dans le cas d'espèce, n'oubliez pas que le Togo est membre fondateur de la CEDEAO et que les dispositions réglementaires de la Cour d'Abuja, l'une des dispositions dit clairement que les décisions de la Cour sont contraignantes. Une autre disposition dit qu'on n'a même pas besoin de vider les recours aux juridictions nationales avant de saisir la Cour d'Abuja. C'est ce que nous avons fait, et dans notre cas, nous avons tout vidé. Puis c'est eux qui nous ont amenés à la Cour constitutionnelle. Monsieur Azouma ne peut plus dire que la décision de la Cour d'Abuja n'est pas contraignante. D'ailleurs, leurs conseils ont essayé de l'interpréter ainsi à Porto Novo. Et le greffier en chef leur a donné une explication de test en leur disant que la décision qui vient d'être prise est contraignante. Un, l'État togolais est condamné. Deux, on ne peut pas dire que les 9 députés ont démissionné de l'Assemblée nationale, donc ils restent députés. Trois, vous avez commis des erreurs graves à leur égard, et pour cela, vous devez leur payer des dommages et intérêts. Et ces dommages et intérêts sont de 3 millions par député. Voilà ce que la Cour a dit. Nous verrons maintenant si le Togo va une fois encore se ridiculiser. Mais dans tous les cas, c'est que nous respectons les lois de la République. Nous respectons les institutions. Mais nous voudrions tout simplement dire que dans cette affaire, il va falloir que le pouvoir se ressaisisse et comprenne qu'il ne peut pas faire autrement que de nous préparer nos 9 fauteuils pour notre futur.
Oui, et Patrick,
non, ça va être la grande mobilisation dans tout le pays.
Patrick
Lawson, nous ne voudrions pas en arriver là.
Patrick Lawson, alors quels sont vos moyens d'action si vos 9 députés ne sont pas réintégrés?
Dans le Togo, il y a 2 groupes. Le pouvoir qui utilise la force publique et parfois la force armée, et un parti comme le nôtre qui utilise la mobilisation populaire. Aujourd'hui, ils ont une décision unique de la Cour constitutionnelle. Ils ont ce papier en main. Nous, nous avons une décision d'une institution supranationale et dont les décisions s'imposent. Nous avons ce papier en main. C'est papier contre papier. Et donc, nous, nous allons mobiliser nos militants, les populations togolaises qui ont bien compris qu'on nous a humiliés, on nous a maltraités dans cette affaire. Et il fallait voir aujourd'hui la mobilisation qu'on a eue de Kodjengi à la plage. Nous avons commencé la marche à 9h30, nous avons terminé à 16h30 de Lomé. Vous voyez vous-même, les Togolais sont désormais décidés.
Monsieur Patrick, restez toujours en ligne. Romain a toujours des questions, je pense.
Évidemment. Monsieur Patrick Lawson, si la décision de la CEDEAO est à saluer, peut-on interpréter cela comme un rattrapage de sa perte de crédibilité, puisqu'elle n'a pas été capable, en 2005, de condamner les graves violations des droits de l'homme? En Côte d'Ivoire et en Libye, ça a été également le cas.
D'une façon schématique, on peut le dire ainsi. Mais sachant raison garder, la CEDEAO en tant que telle est une institution politique. C'est vrai que la Cour de la justice, la Cour de justice d'Abuja en est une émanation, mais c'est une juridiction qui a dit le droit. Et je crois que cette Cour jusqu'à présent a dit le droit dans tous les dossiers. Nous voudrions espérer que ça va continuer. Je suis d'accord avec vous que les Togolais n'ont pas oublié ce qui s'est passé en 2005 et nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Et si on peut déjà dire que c'est un rattrapage de la CEDEAO, je crois que même se dire ainsi, ce serait trop facile. L'affaire de 2005 est là et doit être réglée un jour. Et l'affaire du 22 novembre 2010 concernant les 9 députés en est une autre. Et celle de 2005 ne peut être comparée à aucune autre. Voilà.
Monsieur Patrick Lawson, le retour probable de l'ANC au Parlement ouvre-t-elle une porte à la participation au dialogue avec le pouvoir?
Pardon?
Je disais, est-ce que le retour probable de l'ANC, hein, des 9 députés de l'ANC au Parlement togolais, ouvrira-t-elle une porte à la participation du dialogue avec le pouvoir?
Mais vous savez, nous avons posé, entre autres préalables, un point relatif au retour des députés à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le fait du pouvoir togolais. C'est le fait de la justice internationale. Et on ne peut pas dire que cela amène ipso facto à reprendre ou à rentrer dans les discussions qui se déroulent actuellement. D'abord, c'est une décision qui vient d'être prononcée. Il faut qu'on voit déjà quel va être le comportement et l'attitude du pouvoir togolais. Première chose. La deuxième chose, c'est que, vous le savez, nous sommes là pour défendre le peuple togolais et nous ne courons après rien du tout. C'est ce qui peut aller dans l'intérêt du peuple, c'est cela que nous recherchons. Et pour ce qui concerne le dialogue, nous ne pouvons jamais refuser le dialogue. Même ceux qui font la guerre finissent par dialoguer. Mais nous ne voudrions plus rentrer dans un contrat de dupes. Si on doit dialoguer, il faut que ce soit des discussions sérieuses. Et le moment venu, lorsque nous déciderons de dialoguer, donc de discuter, il y a une condition. La toute première, c'est de dire dans quel cadre nous allons discuter. Ce qui existe aujourd'hui n'est pas sérieux. On discute avec qui? On discute dans quoi? Le CPDC, dans sa composition actuelle, ne répond pas du tout à des dispositions qui vont permettre des discussions sérieuses. C'est pour cela que, une fois que nous retournerons à l'Assemblée nationale, il va falloir qu'on discute d'ailleurs d'autres préalables, mais surtout de ce cadre de dialogue. Ce qui existe aujourd'hui ne nous convient pas. Nous avons été élus par le peuple et nous avons un mandat de la nation. C'est avec ce mandat que nous discuterons avec les autres qui ont également un mandat de la nation. Nous n'excluons personne, mais il faudrait que ce cadre réponde à des critères précis et que ce ne soit pas une seule partie, c'est-à-dire le pouvoir, qui choisissent des amis, qui demandent de discuter avec eux. Ça, c'est exclu. L'ANC ne le fera pas.
Monsieur Patrick, lorsqu'on reste toujours en ligne avec nous, Romain, vous avez une dernière question, Romain?
Évidemment. Monsieur Patrick Lawson, cette semaine, il a été question de discussion des droits de l'homme à Genève, plus précisément en Suisse. Et le Togo a été interpellé quant à son adhésion à la Cour pénale internationale. Pensez-vous que ce régime que vous avez en face se pliera aux injonctions internationales?
Vous posez la question à quelqu'un qui ne peut pas répondre. Et je souhaiterais que le moment venu, vous puissiez poser la question au régime lui-même. Je ne sais pas, ça c'est tout à fait une question de bon sens, en tout cas une réponse de bon sens que je voudrais donner. Est-ce que le Togo est prêt à choisir lui-même le bâton avec lequel on peut le fesser? Toute la question tourne autour de ça. Mais ceci dit, n'oublions pas que nous vivons aujourd'hui dans la mondialisation, dans la globalisation, et qu'aucun État ne peut se comporter d'une façon solitaire et isolée. Et à ce titre, je crois qu'à un moment donné, si ce n'est pas cette fois-ci, il arrivera un moment où le Togo sera obligé de signer ce dossier pour que il puisse se plier.
Monsieur Patrick, leur sort une dernière question. Les Loméens ont encore battu le pavé ce samedi à vos côtés pour la manifestation hebdomadaire du FRAC. Quel a été donc le message concret qui a sanctionné la manifestation de ce samedi à Lomé?
Mais deux, trois messages. Le premier message, c'est les remerciements à tous ceux qui se sont battus pour que on en arrive à ce verdict. Tous ceux qui nous ont aidés de façon diverse. Le message essentiel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que plus jamais un Togolais ne peut être laissé pour dans une situation où il ne saurait avoir recours à la justice. Si la justice ou les juridictions nationales continuent à être instrumentalisées, chaque fois que les institutions juridictionnelles prononceront des jugements indignes, les Togolais désormais suivront la voie que l'ANC vient de tracer, avoir recours aux institutions supranationales pour s'en sortir, pour défendre les droits de l'homme. Enfin, c'est le deuxième message. Le troisième message, c'est que la lutte, quand elle est bien défendue, quand elle est bien menée, quand elle est dirigée avec fermeté et droiture, elle aboutit toujours. C'est ce que nous résumons en ceci. La lutte populaire est invincible. Lorsque nous avons porté plainte, combien de gens ne se sont pas moqués de nous? De grands avocats au Togo, des partis de l'opposition certains journalistes même, que mais vous vous trompez, on ne peut jamais vaincre un État au tribunal. Ben, nous venons de le démontrer. En plus, nous sommes un pays francophone. Si les anglophones, c'est courant, mais dans un pays francophone, cela veut dire qu'il faut mener toujours la lutte sans faillir. Voilà les messages que nous avons fait passer.
Merci beaucoup, Patrick Lorson. Je rappelle à nos fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K, ici même en Suisse, que vous êtes le premier vice-président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement au Lomé, au Togo. Merci encore une fois et excellente soirée à vous depuis Lomé.
C'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites avec la diaspora. Merci.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Retour maintenant en Suisse et nous allons discuter en allemand de l'élection au Conseil national en Suisse. Et bien sûr avec Madame Sylvia Gull-Lawson. Gull-Lawson est candidate du Parti politique évangélique dans le canton d'Argovie. Et bien sûr, nous allons discuter en allemand, je viens de vous le dire. Die Nationalratswahlen ist schon am 20. Oktober stattfinden und wie besprochen, kommen wir als nächstes zu unserem heutigen Gast, Frau Sylvia Gull-Lawson, Nationalratskandidatin der EVP. Aber von dem Gespräch eine kurze Übersicht über ihre bisherige berufliche und politische Laufbahn.
Sylvia Gull-Lawson ist am 21. Mai 1969 geboren und auf einem Bauernhof im Thurgau in der Ostschweiz zusammen mit drei Geschwistern aufgewachsen. Sie absolvierte die Handelsmittelschule sowie später die höhere Fachschule für Betriebswirtschaft und arbeitete in verschiedenen Unternehmen als Kauffrau. Seit 1995 ist sie mit Guy Latevi-Lawson, einem Mann aus Togo, verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder, Deborah, 13, und Timothée, 11 Jahre alt. Ihre Hauptbeschäftigung ist Familienfrau und Mutter, zudem arbeitet sie teilzeitlich im Schulsekretariat. Zusätzlich ist sie in verschiedenen sozialen, kirchlichen und politischen Projekten im Dorf und in der Region engagiert.
Frau Sylvia Gull-Lawson, guten Abend.
Guten Abend.
Herzlich willkommen in der heutigen Sendung Fenêtre sur l'Afrique. Sie sind Nationalratskandidatin der EVP. Was ist genau EVP?
Es ist die Evangelische Volkspartei der Schweiz. Sie wurde bereits 1919 gegründet, hat eine lange Tradition. Als Symbol ist der Hahn, der als Mahnruf dient. Ja.
EVP ist eine Partei, die sich für eine christliche Politik einsetzt. Wie stehen Sie zur Trennung von Staat und Religion, Frau Gull-Lawson?
In der Schweiz wurde diese Frage gut gelöst. Im Moment ist sogar die Tendenz, dass die Religion total in die Privatsphäre verbannt wird. Und das finde ich falsch. In den Schulen sollen die Kinder die christlichen Traditionen kennenlernen. Sie sollen die Grundlagen des christlichen Glaubens kennenlernen. Aber wir sind für eine tolerante Schweiz und wir setzen uns für Religionsfreiheit ein.
Also an dieser Sendung mitgearbeitet hat Michael Verstein. Ich glaube, du hast ein paar Fragen an Frau Gull-Lawson stellen können.
Guten Abend miteinander. Die Zuwanderung ist ein großes Wahlkampfthema.
Einerseits hat die Schweiz eine große humanitäre Tradition und nahm immer wieder Flüchtlinge auf. Andererseits gibt es eine Bewegung, die verhindern möchte, dass Menschen aus anderen Ländern in die Schweiz kommen. Das hat man zum Beispiel bei der Zuwanderung aus Nordafrika nach den Revolutionen in Tunesien und Libyen oder auch beim Minarettverbot gesehen. Ist hier die Nächstenliebe verloren gegangen?
Ich finde es wichtig, dass wir auf die humanitäre Tradition der Schweiz aufbauen und Flüchtlinge im Notfall unbürokratisch helfen. Wir können allerdings nicht die ganze Not auf der Welt lösen, indem wir alle Menschen aufnehmen. Und darum engagieren wir uns auch, die Armut weltweit zu halbieren für einen gerechten Handel, dass sich die reichen Staaten uneigennützig auch einsetzen für mehr Gerechtigkeit auf der Welt. Und ich bedauere, dass diese Hetze und diese Panikmache wegen der Einwanderung, die mehr durch die Personenfreizügigkeit von Schengen herrührt, dass viele von den Nachbarländern eingewandert sind und ihre Häuser hier bauen als von den Flüchtlingen. Ich finde es auch, diese Plakate, die stören sehr, die an den Bahnhöfen und Flughäfen die Leute eigentlich, die zu uns kommen, abschrecken. Wir wollen eine offene Schweiz, ja.
Was sind Ihre Projekte, falls Sie in den Nationalrat gewählt werden?
Für mich als Mutter ist es wichtig, für Familien mich einzusetzen. In der Schweiz gibt es eigentlich keine Familienpolitik. Wir wollen den Jungen Mut machen, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben. Es soll keine Armutsfalle werden. Da es zum Beispiel bei den Krankenkassenprämien mehr Unterstützung gibt und in anderen Bereichen. Wir sind auch wir wollen die Ehestrafe abschaffen. Also bis jetzt sind Eheleute bei Steuern und AHV diskriminiert. Wir wollen keine Schulden. Wir wollen Schulden abbauen, bevor wieder Steuersenkungen gemacht werden. Und auch wollen wir den Prämienwachstum bei den Krankenkassen stoppen. Ein wichtiges Thema ist auch eine nachhaltige Schweiz für Energie.
Nachhaltige Energie.
Ja, genau. Ja, den Energieverbrauch, Energieeffizienz fördern und erneuerbare Energiequellen.
Frau Sylvia Gulausen, die Asylgesetze würden verschärft. Man spricht auch von Diskrimination und Integrationsproblemen. Wie steht Ihre Partei dazu?
Wir wollen rasche und korrekte Asylentscheide. Die ganze Migrationsfrage ist ziemlich kompliziert. Wir wollen aber, dass der einzelne Mensch im Blickfeld bleibt. Wir wollen, dass Christenverfolgung als Asylgrund anerkannt wird. Und es braucht auch eine Lösung für die Sans-Papiers, was sehr wenig thematisiert wird, aber eigentlich ein Problem wird. Er ist in der Schweiz und diese Menschen brauchen eine Zukunftsperspektive. Und Integration ist aber auch vor allem eine Sache des Einzelnen. Wir können gegenseitig unsere Häuser öffnen und uns einander am Leben teilnehmen lassen. Wir machen das im Dorf und es ist sehr bereichernd auch, Leute aus verschiedenen Ländern. Zum Beispiel habe ich eine Freundin aus Thailand und eine Freundin aus Mayotte und wir können so viel voneinander lernen und so Kinder lernen so auch einfacher Deutsch.
Also was möchten Sie unseren Hörern zum Schluss noch sagen?
Ich möchte den Hörerinnen und Hörern aus der Schweiz Mut machen und zu mitreden in den Wahlen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen und mitentscheiden. Und für alle zusammen möchte ich sagen, jeder kann in seiner Umgebung viel verändern, indem er sozial und verantwortlich handelt. In Nächstenliebe und Wertschätzung. Wir können, die Schweiz ist ein Beispiel. Es gibt sehr viele kleine Initiativen. Wir können nicht auf den Staat warten. Wir müssen selber unsere Umgebung prägen, ja.
Frau Sylvia Gulausen, Nationalratskandidatin der FVP. Besten Dank für Ihren Besuch im Studio Kanal K und alles gut.
Herzlichen Dank, es hat mich sehr gefreut.
Eh bien, pour résumer un petit peu ce que vient de dire la candidate du Parti politique évangélique dans le canton d'Angovie, et je vous rappelle que c'est le 23 octobre prochain pour l'élection au Conseil national en Suisse. Eh bien, pour Madame Gulausen, la religion est importante parce qu'on ne peut pas changer l'individu par une loi, mais par la foi. On a tendance de créer des nouvelles lois pour résoudre des nouveaux problème, mais ce n'est pas cela qui change la société. Et elle va loin, elle dit que la Suisse a connu une grande immigration par des gens des pays voisins qui viennent en Suisse, qui construisent leurs maisons, qui ont de bonnes places de travail. Et pour cela, beaucoup des gens sont inquiets de ce développement. Et certains partis politiques et médias ont fait de la panique. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner nos traditions humanitaires. Et elle continue toujours. Hein. La Suisse doit accueillir des réfugiés qui sont en danger et non en détresse. Et elle finit, elle dit, nous voulons que la Suisse s'engage beaucoup plus pour diminuer la pauvreté sur le plan mondial et pas des projets, par exemple, pour une commerce mondiale basée sur des conditions justes et égales. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio.